Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News.
Et on a Claire Vichouani, bonjour.
Bonjour, Sean, au sommaire de cette édition. 19 nouveaux cas de coronavirus enregistrés ce lundi. Concernant la vaccination obligatoire pour les établissements éducatifs, la crainte s'installe. Inacceptable que la vaccination soit imposée au personnel de santé, s'insurge Narendranath Gopi. Règlement sur les vaccins obligatoires, si cela s'avère, c'est de la dictature. Il faut la contester en cour, lance Ramavalaiden. Des dispositions de l'ICT Act jugées anticonstitutionnelles, il est grand temps que le gouvernement donne une définition claire et nette au terme annoyance, exhorte maître Shakil Mohamed. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi la reprise des travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramanian Kisnen en cours de Moka. Meurtre de la fillette de 14 mois, Jean-Damien Kenny-Kader face à la justice ce mercredi. Pendant ce temps, la police poursuit les recherches sur le verger de Mar d'Albert, soupçonnant Oumiyad Ibrahim d'y avoir enterré deux autres femmes. Après les résultats du PESAC, place aujourd'hui à l'exercice d'admission en grade 7. Et pandémie dans le monde, l'OMS donne son homologation d'urgence au vaccin chinois anti-Covid Sinovac. Un nouveau cas de coronavirus enregistré ce lundi. Parmi une habitante de Kongoma, testée positive au COVID-19 Testing Center de l'hôpital SSR. Ce cas est en cours d'investigation, indique le ministère de la Santé à travers son communiqué. Et les 18 autres personnes ont été testées positives lors des tests PCR au 7e jour de leur quarantaine. Le nombre de cas actifs au niveau local s'élève donc à 147. Et puis, le gouvernement veut faire vacciner au moins 60% de la population d'ici fin septembre 2021. Steven Obigadou se réjouit qu'un Mauricien sur quatre est désormais vacciné. Cela malgré les difficultés à se procurer le vaccin sur le plan international. L'objectif désormais, dit-il, de vacciner au moins 40% de la population d'ici fin juillet. Si tout fonctionne comme prévu, l'immunité collective sera atteinte d'ici fin septembre 2020, a ajouté Steven Obigadou. Et puis je vous rappelle que la deuxième étape de la campagne de vaccination démarre demain. C'est le premier ministre adjoint Steven Obigadou qui était face à la presse hier, qu'il a annoncé. Il a expliqué qu'à partir de demain, donc, et 6 catégories de personnes pourront se faire vacciner dans les 15 centres mis à la disposition du ministère de la Santé. Vous pouvez consulter notre page Facebook Top FM Mauritius pour plus de détails. Et puis, réouverture des crèches, un certificat officiel de vaccination aux propriétaires pour pouvoir opérer. Déclaration de Kalpana Kundjusha hier, la ministre, donc, qui a lancé un appel aux propriétaires des crèches d'envoyer la liste de leur personnel, y compris les chauffeurs de van qui ont reçu les deux doses du vaccin anti-Covid à son ministère, qui par la suite sera envoyé à la santé pour une contre-vérification. Kalpana Kundjusha.
En ce qui concerne réouverture de bonne crèche, tout bonne la crèche que votre personnel infini recevoir de deux doses de vaccin, je suis capable de commencer à opérer suite à une certification officielle de mon ministère. Alors, ce qui est bien faire, vous faire l'appel à tout bon propriétaire, bon gérant, bon manager, bon la crèche, vous êtes compile la liste de votre personnel et ça inclut bon chauffeur, bon aide-chauffeur. Vous envoyez-nous au niveau du ministère ça, la liste-là. Nous, bon officier ministère, pour envoyer ça auprès de la santé qui pour contre-vérifier ça la liste là et de nous une confirmation qui effectivement ce nombre de personnel in fine recevoir des doses de vaccin et suite à ça de vous gagner un communiqué officiel qui est capable de recommencer à opérer de ben la crèche.
Et les nouveaux règlements sous la Quarantine Act qui obligent indirectement les employés des institutions scolaires à se faire vacciner a déjà commencé à créer des controverses. Les syndicalistes dans le secteur de l'éducation ont eu une première rencontre avec Lila Davidouken-Lutchman hier. Ils affirment que la ministre leur a fait comprendre que les employés de ce secteur n'auront pas d'autre choix que de se faire vacciner. Présent lors de cette réunion, Pritam Mohitram de l'association des recteurs et assistants recteurs des collèges d'État explique qu'il y a beaucoup de réticences concernant la vaccination et demande plus d'explications au ministère de l'Éducation.
Ça part là, l'UPFR dans le monde, dans certains pays. Même l'Académie de médecine en France qui fait opter pour une nécessité vaccinale, pour aller dire. Mais à Maurice aussi, on pense à certaines démarches pour protéger les nations, protéger les élèves, le personnel enseignant et non enseignant. Et cependant, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de résistance parce que un parent peut avoir accès à une assistance d'éducation, mais nous comprenons l'enjeu. Alors le ministère de l'Éducation pourvient peut-être avec plus d'explications, mais nous, le chef d'établissement, nous n'est rappelé par le ministère de l'Éducation qui est autant la majorité parce que tout le personnel enseignant, non enseignant, puis être vacciné et surtout muni d'un justificatif pour le test PCR. Et là, c'est une phase de consultation et de débat qui est très important pour la démocratie.
Et un communiqué sur cet amendement concernant le secteur de l'éducation sera émis demain, jeudi. Et toujours concernant les amendements de la Quarantine Act, le syndicaliste Narendra Nath Gopi a été très critique sur ces nouveaux règlements qui obligent indirectement donc les employés des institutions de santé également à se faire vacciner. Il se demande si les membres du public donc auront accès aux hôpitaux. Pour le syndicaliste, le consentement des individus sur la vaccination reste important.
Donc, dit les chaînes, c'est j'en sais qu'il y a plus de nous, plus ça va du monde, pour aller s'abonner là, pour fréquenter s'abonner là, pour bien finir faire de ce après ça, je vous gagne là. C'est ici. Et moi, on vit qu'on est qu'il y a du monde qui peut installer dans le local, quoi. Est-ce que je vous gagne droit à rentrer, ou pas vous gagne droit à rentrer? Et surtout que l'intérieur, ben, zélé, fréquente s'abonner là, ben, espèce, et ben, vaccin, c'est pas obligatoire pour eux. C'est le gouvernement qui retourne la population. Donc, pour moi, on n'est pas capable d'imposer un vaccin loin du monde. Si du monde n'a pas les mettre un vaccin de sur les corps, il pas les mettre un poison de c'est l'écho, comment je fais, que je fais, je fais les gens, ou pas ça part faire du monde là. Parce que l'écho là, c'est du monde là, ce private property, ou bien qu'il y a son consentement avant. Alors, vous pensez que pour meilleur, dans l'intérêt du gouvernement, il ramasse ça, c'est qu'il est là, avant qu'il ne commence à faire une pression, et pour que le gouvernement comprenne ce qu'il peut faire et qu'il peut mal faire.
Et puis un document qui ressemble à un draft d'une regulation pour interdire l'accès à des établissements à toute personne ne s'étant pas fait vacciner ou qui n'a pas un certificat démontrant qu'il a effectué un test PCR et qu'il est négatif depuis 7 jours. Une question a été envoyée au NCC hier pour confirmer ou démentir cela, mais elle est restée sans réponse. Cependant, des indications ont été données, à titre d'exemple donc, les crèches qui pourront rouvrir uniquement sous condition que tous les employés soient vaccinés. Un développement qui suscite donc une grosse controverse est soulevé au cours de notre émission Zoom Extra hier. Pour Maître Valaiden, si cette regulation est vraie, ce serait de la dictature. Il affirme que cela devra être contesté en justice.
C'est pas possible. C'est pour ça que moi, me dis, c'est un gouvernement qui perd votre cadenas, c'est la dictature, qui régulation capable de faire ça. Et impose un parent qui ne vient dans la cour, l'école, qui pas de test capable de faire face à une amende maximale de 500 000 euros. Il se peut badiner, il est haut de proportion. Il est parce qu'il peut être substantif. L'eau, c'est pas possible qu'il peut faire plus badiner. C'est pour ça que moi, me dis, je peux déjà mettre en pratique. Et après ça, je peux, comme à dire, et du moins, une meaning, à louper une meaning. Et donc, ça régulation, ça, pour bien challenge régulation, ça. Et demain, comment vous connaissez toute équipe Avengers besoin, et moi penser que nous pour besoin, nous aussi une responsabilité pour faire une action, ce qui est là pour faire à partir de demain. Et pas tout une action peut augmenter, et nous pour peut-être surflouer avec ben, qu'est-ce qui vous besoin rentrer contre le gouvernement.
Pour Maître Valaiden, c'est une atteinte à la liberté du citoyen.
Ce qui est grave, c'est qu'il y a une atteinte à la liberté de l'individu, c'est parce que le pouvoir, bien dit, force ben du monde, elle rentre dans un grand voyage dans l'inconnu, et aussi, faire ben dépense, qui, moi, me pensais, par nos précipitations, inutile à ce stade, et en même temps, créer une grande panique pour n'importe où. Comme beaucoup parents de la cour. Mais le fait, c'est que le gouvernement dit, bizarre, via nous, sur regulations, qui fait sur regulations, quand il passe sur regulations, est-ce qu'il fait ben réunion, avec ben officier et de l'attorney general office, est-ce qu'il y a un solliciteur général sur advice et avant, à l'avant, il n'y a aucune concertation et pénétrer une régulation sans qu'il nous connaît. Mais nous connaît qu'il peut déjà mettre en mort. C'est ça qui est grave. Au bout d'un moment, il ne peut pas me dire, mais il peut le faire lui en pratique. Donc c'est comme ça qu'il faut museler tout un pays ou cadenasse tout un pays.
Controverse autour des dispositions de l'ICT Act face à la presse. Hier, Maître Shakil Mohamed donc est revenu sur le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Seagum versus l'État mauricien. Le terme « causing annoyance », explique-t-il, est tellement vague et vaste que la Cour suprême n'a pu se prononcer sur la loi de l'ICTA de 2016 et de 2018. Ainsi, cette instance a statué que certaines dispositions de la loi sont anticonstitutionnelles, car elle est en violation de la section 10.4 de la Constitution, souligne le député rouge de la circonscription numéro 3. Le gouvernement doit tout simplement se baser sur le jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire Sigum et définir le terme « annoyance » qui n'est pas reconnu dans la loi, avise l'avocat. Écoutons Maître Mohamed.
Le fait que la loi, l'ICTA, n'a pas défini « causing annoyance », elle est tellement vaste, « annoyance », il est nécessaire que je déclare ça, la loi-là, sa clause-là, qui ressemblait, sa clause qui existait là, comme étant anticonstitutionnelle. Maintenant, quelle est la solution pour le gouvernement? Le gouvernement vient clairement baser ce que la Cour suprême peut dire et donner une définition de ce que ça veut dire « annoyance ». Donne-moi un paramètre pour qui l'homme raisonnable qui peut lire la loi-là comprend exactement ce qu'il n'a pas le droit de faire et ce qu'il a le droit de faire. Nous ne pouvons pas réinventer la roue. Sa qualité de la loi-là existait pour empêcher ban dérapage, pour empêcher ban abus. Ça existait dans les autres pays.
Et puis, offre Internet mobile, la Competition Commission qui ouvre une enquête sur la commercialisation de forfaits prépayés potentiellement abusifs de deux opérateurs. Cette enquête concerne le conseil Pay As You Go Mobile Data que proposent deux opérateurs mobiles du pays. Selon un communiqué, l'organisme aurait des motifs de penser que ces deux opérateurs d'Internet mobile exploiteraient leur monopole en utilisant des pratiques potentiellement excessives dans la commercialisation de leurs forfaits prépayés. Cette enquête se portera sur deux volets, notamment la politique des prix et la configuration des offres Internet mobiles « Pay as you go » que proposent ces deux opérateurs. En l'absence d'abonnement à un forfait ou suite à l'épuisement d'un forfait, un utilisateur est automatiquement facturé le tarif d'Internet mobile « Pay as you go » et sans pouvoir se désabonner du service. Toute personne souhaitant s'exprimer sur les points précis de ces investigations par rapport à l'un ou à l'autre opérateur est invitée à contacter la Competition Commission au plus tard le 30 juin 2021 par courriel. C'est à travers l'adresse info@competitioncommission.mu ou en appelant sur le 211 20 05. Dans l'actualité ce matin, c'est aussi les travaux de l'enquête judiciaire sur la mort suspecte de l'ancien agent du MSM, Subramanian Kisnan. Et je vous rappelle que les travaux ont dû être stoppés à cause du confinement. Et rappelons que le corps de Subramanian Kisnan a été retrouvé partiellement calciné dans un champ de canne à Telfer le 18 octobre dernier. Sur la liste des témoins à être auditionnés, on retrouve l'ancien ministre du Commerce Yogi Dasan Minaden, l'homme d'affaires Vijayapana, l'hôtesse de l'air Nita Nokched et Keshwani Punit. Donc les travaux de l'enquête judiciaire sur la mort suspecte de Subramanian Kisnan qui reprennent ce matin en cours de Moka. Et ces tragédies qui frappent notre pays, le meurtre de Alia, une fillette de 14 mois. Le maçon de 29 ans, Jean-Damien Kenikader, qui sera présenté devant le tribunal de Flac ce matin pour sa mise en inculpation provisoire. Cela après avoir avoué avoir étranglé la petite fille de 14 mois aux petites heures du matin hier. Aux enquêteurs, Jean-Damien Kenikader a indiqué qu'il a étranglé l'enfant parce qu'elle pleurait trop. Rappelons que vers 2h du matin, que la mère a débarqué au poste de police avec son bébé dans les bras, elle a dit aux policiers que la petite fille ne respirait plus. Les policiers l'ont immédiatement transportée à l'hôpital Bruno Chong à Flac. Sur place, le personnel de santé n'a pu que constater son décès. L'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadin hier a attribué le décès de la petite Alia à une asphyxie suite à une compression du cou. Deux cadavres déterrés à Mar d'Albert. La police soupçonne que le présumé meurtrier Oumiyad Ibrahim a enterré deux autres femmes qui seraient portées manquantes. Elles ont été en contact avec ce dernier via Facebook. Et hier, une grande partie du verger a été rasée afin de savoir si des restes humains s'y trouvent. Des appareils infrarouges sont également utilisés afin de détecter toute trace de sang sur le verger. Aussi, hier, un téléphone portable de la marque Samsung a été récupéré par la GIPM dans la rivière Lachaud à Maïbourg. Le téléphone portable sera analysé afin de connaître son propriétaire. Les enquêteurs vont aussi tenter de récupérer le contenu. La police est à la recherche d'un deuxième téléphone que le présumé meurtrier avait avoué avoir jeté. Toujours concernant ces deux cadavres déterrés à main d'Albert, le chef de file du Parti travailliste au Parlement, le docteur Boulel, a déploré le fait que la Mental Health Commission soit restée silencieuse et indifférente sur le cas d'Oumiyad Rami et Ibrahim, atteint de troubles psychiatriques. Le docteur Boulel s'attend à ce que des actions soient prises par la Mental Health Commission et qu'il y ait un meilleur suivi concernant la santé mentale du présumé meurtrier. Écoutons-le.
Il n'est pas pour référer spécifiquement au cas de Ibrahim, mais ça interpelle. Sachant très bien qu'il y a une personne, elle a un problème psychiatrique de sa gravité. Au Tiatan, au-delà du suivi par un médecin, rapport qui t'y faisait là, soit dans l'hôpital régional et à Bantika, au Tiatan, qui rapport là, t'y faisait être soumis à la police. Puisque un silence de Mental Health Commission, silence total. La police maintenant peut mettre un panel de médecins qui vont faire leur assessment. Vous espérez que tout document concernant santé mentale de la personne est disponible. Les malheureux qui est à Maurice, dans une personne, et malheureusement, il y a ce qu'on appelle un discharge letter. Pour un meilleur suivi. Mais vous espérez que le médecin, les médecins concernés, soumettent les rapports comme avisé et que le Mental Health Commission soit capable de continuer à opérer dans l'indifférence.
Autre sujet abordé par le docteur Boulel face à la presse hier, la dimension psychosociale de la Covid-19. Plus de 13% de la classe travailleuse est au chômage, soit presque 75 000 personnes, a déploré le docteur Boulel. C'est un drame humain, s'insurge le chef de file du Parti travailliste au Parlement. Il faut que les autorités maintiennent pour lui le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme pour venir en aide à ces familles qui sont en situation précaire depuis l'annonce du confinement national. Elles sont confrontées à un problème de dimension psychosociale, s'inquiète encore le docteur Boulel. Dans l'actualité ce matin, après les résultats du PESAC, place à l'exercice d'admission en grade 7 ce mercredi en raison de la pandémie de Covid-19. Cet exercice qui se fait encore en par ordre alphabétique, ainsi ceux dont le nom de famille commence par A à L devront se présenter au collège alloué par le ministère de donc entre 9 et midi. Tandis que pour ceux dont le nom de famille commence par M à Z, l'exercice se tient de midi à 15h. Cédric Langevin nous donne plus de détails.
Pour les procédures d'enregistrement, les parents devront être munis des documents suivants, la lettre d'admission, les résultats du PESAC 2020-2021 de l'enfant, original et photocopie, l'extrait de naissance de l'enfant, original et photocopie, la carte d'identité du parent, original et photocopie, deux photos de passeport de l'enfant pour les formalités relatives au transport gratuit, au cas où le parent ne se présente pas comme indiqué ci-dessus, pour les formalités d'enregistrement, la place offerte préalablement sera déclarée vacante et allouée à un autre candidat, précise le communiqué du ministère de l'Éducation. Suite à l'enregistrement des élèves le 2 juin, le MES procédera à un deuxième exercice pour l'allocation des places déclarées vacantes et à cet effet, un autre communiqué de presse sera émis prochainement, indique le communiqué.
Et Valépito est décrété zone rouge. Ainsi, l'exercice d'admission en grade 7 se tient à l'école primaire Surtisuni ce mercredi. C'est ce que précise le ministère de l'Éducation par le biais d'un communiqué émis hier. Les parents concernés ne devront pas se rendre au collège que le ministère leur a attribué. Ils sont priés de se rendre à l'école primaire Surtisuni selon le système d'ordre alphabétique mis en place. Je répète, A à L de 9h à midi, M à Z de midi à 15h. Les parents doivent se munir à des documents mentionnés un peu plus tôt.
L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence.
L'Organisation mondiale de la santé a donné mercredi son homologation d'urgence au vaccin anti-Covid chinois Sinovac, a annoncé l'agence onusienne dans un communiqué. Le comité d'experts vaccinaux de l'OMS a donc recommandé ce vaccin qui requiert deux doses à intervalles de 2 à 4 semaines pour les personnes de 18 ans et plus. L'OMS avait déjà homologué le Sinopharm fabriqué à Pékin le 7 mai dernier. L'efficacité du Sinovac est de 57% pour prévenir les cas de Covid symptomatiques, mais de 100%. 50%, dit-on, pour éviter les cas les plus graves et les hospitalisations sur les populations étudiées, précise l'OMS. L'efficacité pour les plus de 60 ans n'a pas pu être évaluée cependant. Ce sérum de type vaccin inactivé est facile à stocker, ce qui le rend facile à gérer, particulièrement adapté aux pays qui ont peu de ressources, souligne encore l'OMS. Au Vatican, le pape François a rendu public ce mardi une importante réforme du droit de l'Église pour punir les délits graves, notamment sexuels. Un remaniement profond des textes attendu depuis longtemps. C'est un changement ferme et sans précédent que le pape François a fait inscrire noir sur blanc avec cette réforme du droit de l'Église. Tout un nouveau chapitre de loi décrit désormais explicitement les crimes contre la vie, la dignité et la liberté humaine. Il s'agit des crimes sexuels et des abus de pouvoir commis par les religieux sur des mineurs ou des personnes en état de faiblesse, mais aussi par les laïcs au sein de l'Église. En Italie, la libération pour bonne conduite du chef mafieux Giovanni Bruccia continue de faire des vagues après l'indignation exprimée par plusieurs leaders politiques de droite et de gauche. Le président du Sénat, Pietro Grasso, défend l'application de la loi qui permet aux collaborateurs de justice de bénéficier de mesures de clémence. Le meurtrier du juge Falcone en 92 a reconnu être l'auteur entre 100 et 200 assassinats. Après avoir purgé une peine de 25 ans de prison, il en est sorti lundi 1er juin. L'ancien assistant de Toto Riina bénéficie du programme de protection spéciale des collaborateurs de justice. Bruccia, c'est l'homme qui a actionné la télécommande des 400 kilos d'explosifs qui ont tué en 1992 près de Palerme. Le juge Falcone, son épouse, ses trois gardes du corps. Arrêté 4 ans plus tard, le Sicilien a reconnu avoir commis entre 100 et 200 meurtres, sans d'ailleurs se souvenir toujours du nom de ceux qu'il a tués. Parmi ses victimes, un garçonnet de 12 ans, fils d'un repenti, séquestré, étranglé et finalement dissous dans l'acide. Le rappel des titres. 19 nouveaux cas de coronavirus enregistrés ce lundi. Concernant la vaccination obligatoire pour les établissements éducatifs, la crainte s'installe. Inacceptable que la vaccination soit imposée au personnel de santé, s'insurge Narendranath Gopi. Règlement sur les vaccins obligatoires, si cela s'avère, c'est de la dictature, il faut la contester en cour, lance Ramavalaiden. Des dispositions de l'ICTA jugées anticonstitutionnelles, il est grand temps que le gouvernement donne une définition claire et nette au terme « annoyance », exhorte maître Shakil Mohamed. Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi la reprise des travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramania Kisnen en cours de Moka. Tragédie qui frappe notre pays, meurtre d'une fillette de 14 mois. Jean-Damien Kenny-Kader fera face à la justice ce mercredi, alors que la police poursuit les recherches sur le verger de Mardalbert, soupçonnant Oumiyad Ibrahim d'y avoir enterré deux autres femmes. Après les résultats du PESAC, place à l'exercice d'admission en grade 7 ce mercredi. Pandémie dans le monde, l'OMS donne son homologation d'urgence au vaccin chinois anti-Covid, Sinovac. Merci d'avoir suivi ce journal.
Merci Vishwani.